Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour et également très bonne année 2020 à vous. Cette nouvelle année commence peut-être par des résolutions et peut-être celle après les fêtes de ralentir un peu sur les agapes de fin d'année et notamment pour ceux qui en consomment sur l'alcool. C'est le but du mois sans alcool, directement inspiré du Dry January ou janvier sec qui existe et se développe depuis plusieurs années dans d'autres pays. La version française commence donc à commencer hier, mais sans la participation de l'État qui ne soutient pas l'initiative des associations qui dénoncent le poids du secteur viticole. Des amoureux du vin s'insurgent contre ce mois sans alcool et y voient une menace de prohibition. La France a-t-elle un problème d'alcool? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous ce soir. Avec nous en studio, Claude Rambaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente de France Asso Santé. C'est un collectif qui regroupe 85 associations à l'initiative de ce Dry January français. Vous allez nous dire dans un instant comment vous appelez ça. Et par téléphone, Jean Guizard, bonjour.
Oui, bonjour Guillaume Nodin.
Vous êtes président de la Fédération des cavistes indépendants. Claude Rambaud, le Dry January, c'est quoi? Quel est l'objectif?
Alors, d'abord, nous ne sommes pas vraiment à l'initiative. Il y a d'autres associations. Il y a la Ligue contre le cancer, il y a la Fondation Addiction, il y a de nombreuses associations qui ont été à l'origine de ce mouvement. Dry January, c'est moi, comme vous l'avez dit très bien, la traduction serait mois sec, littéralement.
Janvier sec, hein, c'est ça.
Oui, janvier sec. Et nous avons choisi de l'appeler le défi de janvier. Voilà, parce que janvier sec, ça nous paraissait un peu plus difficile. Et c'est simplement ce que ce n'est pas d'abord. Ça n'est pas une injonction de sevrage. Faut pas s'y méprendre. C'est juste après les fêtes, faites une pause, donnez un répit à votre corps. Ceci permet de percevoir sa propre consommation, de prendre du recul et prendre le contrôle sur sa consommation. Ça n'est pas du tout une injonction de sevrage, d'ailleurs ça ne marcherait pas.
Jean Guizard, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous inquiète? On a bien senti que le secteur de la viticole était un petit peu méfiant par rapport à cette opération.
Oui, je dirais qu'effectivement, ça fait toujours... un peu peur, ça rappelle la prohibition américaine ou ce genre de choses, même si Mme Rambaud a bien précisé que c'était pas l'objectif. Parce que dans le secteur viticole en France, il y a une culture, une histoire qui est très ancienne et qui implique beaucoup de gens. Et depuis pas mal d'années, effectivement, on a un peu le sentiment dans le monde...
C'est environ 500 000 emplois en France, hein, la viticulture.
Voilà, oui, c'est ça, oui. C'est beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est le deuxième, parfois certaines années, le premier secteur contributeur à la balance commerciale extérieure française. Donc, après l'aéronautique. Donc, vous voyez, c'est quand même pas rien. Et puis, je dirais que le monde entier nous envie en France le patrimoine viticole qu'on a. Donc, c'est vrai que ça fait un peu peur, forcément, à tous les gens qui travaillent dans ce secteur. À chaque fois qu'on leur parle d'interdiction, de consommation, etc., etc.
Claude Rambaud, quand vous avez, avec d'autres associations, lancé ça, est-ce que vous avez mesuré la dimension culturelle particulière de la France?
Alors, je dirais chacun son métier. Mmh. Moi, j'entends tout à fait ce que dit monsieur. Moi-même, j'apprécie très bien les bonnes bouteilles. Il n'y a pas de problème là-dessus. Les associations de santé, nous sommes là sur un registre de prévention. Donc, c'est tout à fait différent. Il y a des enjeux sanitaires, et monsieur le sait bien, qui sont quand même très importants. Les dernières estimations disent quand même pas loin de 45 000 décès par an, 150 000 cancers. C'est pour nous, associations de santé, un véritable sujet. Donc, on est plutôt sur ce registre-là. Et c'est un petit peu parce que nous sommes appuyés sur les expériences antérieures, la Finlande étant à peu près le chef de file en 2004 de ce lancement de ce type de programme. Et ensuite a été suivi par pas mal de pays, dont des pays européens, où on a vu que ça a donné des résultats. Les évaluations successives donnent des résultats qui sont encourageants. Ça permet donc aux gens de reprendre le contrôle et donc de consommer en toute liberté. C'est pas du tout une atteinte à la liberté. L'atteinte à la liberté, ça serait, il est interdit de ne pas boire.
Jean Guizard, le côté, comment dire, consommation raisonnée, c'est quelque chose sur lequel vous pourriez vous retrouver avec les associations de santé? C'est d'ailleurs ce que vous faites déjà.
Oui, complètement. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, moi, je suis pas producteur d'alcool, hein, je suis caviste, donc c'est un métier un peu différent. Le caviste, au départ, en France, vendait que du vin. Maintenant, il s'avère qu'il vend aussi des alcools, mais il a surtout pour objectif de passer un relais, de passer une culture, une histoire, et surtout de la mesure. Je peux vous dire que quand un client rentre chez un caviste, la plupart des gens qui viennent chez nous, un client sur deux, on va dire, on les connaît. C'est des gens du quartier, c'est des gens qu'on connaît, c'est des gens qu'on côtoie. On sait, d'une certaine manière, quelle est leur consommation, entre guillemets, parce que si un jeune rentre chez nous, par exemple, moins de 18 ans, on va vite s'apercevoir qu'il est mineur. En France, vous savez qu'on n'a pas le droit de vendre du vin à des mineurs. Donc, nous, on va tout de suite poser la question, et le petit jeune, on va dire, au fait, tu as quel âge? Il va dire, évidemment, j'ai 18 ans ou j'ai 19 ans. Mais on va aller jusqu'au bout de la démarche. On va dire, tu es sûr, tu peux me donner ta carte d'identité? Et là, évidemment, on va se trouver face à un refus de donner la carte d'identité. Si demain, je vais, moi-même, ou qui que ce soit, dans un supermarché, acheter du vin, personne ne va vous demander dans votre caddie, alors que vous avez mis des chips et des cacahuètes, si le gin ou la vodka qui est dedans, vous avez bien 18 ans pour l'acheter. Donc vous voyez, je veux dire, au quotidien, je pense que, en tout cas chez les cavistes, on est initiateur d'une consommation responsable, et je dirais d'une modération toute l'année. On n'est pas là pour vendre des mauvais alcools et se bourrer la gueule, est-ce que c'est moins le terme. Donc je crois qu'effectivement, c'est très important, ça, l'éducation. Et je pense, Madame Rambaud et vos associations auraient tout intérêt, et le font déjà, je le sais, à éduquer. Parce qu'on a un gros problème en France, c'est qu'aujourd'hui, nos jeunes, hein, moi j'ai un fils de 20 ans, donc je sais ce que c'est, ne sont pas éduqués à l'alcool. Pourquoi ? Parce que dans les familles, on boit plus de vin. Il faut voir que la consommation de France, depuis 20 ans ou 30 ans en France, elle a été divisée quasiment par 20 ou 30 ou 40%. Donc c'est vrai que on a aussi un rôle, je pense, à la fois nous, distributeurs de produits alcooliques, hein, il faut être très clair, hein, l'alcool c'est un produit dangereux, hein, je ne vais pas dire le contraire, à apprendre aux gens à le consommer de manière responsable.
Alors,
ça, c'est très important.
Claude Rambaud, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ?
C'est très intéressant, vous dites, moi j'entends bien tout ce que vous dites, et d'ailleurs j'adhère à certaines choses. Bien sûr que l'éducation c'est fondamental, c'est extrêmement important, et j'entends dire, vous dites, oui, l'alcool c'est dangereux, voilà, je suis très heureuse de vous entendre dire cela, monsieur, parce que souvent j'entends parler de bon usage, comme si l'alcool, le vin est un alcool évidemment, était finalement la norme. Or, non, ça n'est pas tout à fait la norme. En revanche, la liberté de consommer, je l'entends tout à fait. Donc, l'éducation, c'est très, très, très important. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Alors, là où vraiment, je trouve aussi qu'il y a un débat intéressant là-dessus, vous avez parlé du vin. On sait qu'en France, c'est, dans d'autres pays c'est autre chose, mais en France, la porte d'entrée dans les dérives de l'alcool, on va dire l'alcoolisme, c'est le vin. Oui, non, le vin, monsieur, il est quand même connu dans toutes les familles.
Non,
mais
non,
le problème,
c'est pas le vin, parce que regardez ce que consomment les jeunes. Les... Non, regardez ce que consomment.
Attendez, monsieur Guizard, on va laisser finir.
Si, en France, la porte d'entrée, c'est le vin. On le sait. C'est pas moi qui le dis. Il y a des études là-dessus, mais peu importe. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ce sont très certainement, ce sont les vins pas chers, selon les vins de mauvaise qualité, sur lesquels effectivement on pourrait travailler.
C'est-à-dire pas ceux qu'on trouve chez les cavistes.
C'est pas un monsieur qui va vendre ces choses-là.
Oui. Au contraire.
Je pense.
Au contraire. Jean Guizard, oui, vous contestez le fait que en France, l'aspect culturel fait qu'on rentre dans l'alcool et peut-être dans l'alcoolisme à terme par le vin.
Oui, je conteste totalement. Je conteste totalement. Pourquoi ? Parce que on n'aime pas naturellement le vin. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, un vin rouge, c'est très tannique, c'est pas très agréable. Les gens de 18 ans ou de 20 ans, moi je le vois dans mes clients, hein, qui sont jeunes, qui ont 20, 25 ans, en général, c'est pas naturel d'aimer le vin. Je pense que si on n'a pas été éduqué par ses parents à en boire un petit peu de temps en temps, on n'y vient pas naturellement. Et on y vient comment ? On y vient plus tard, entre 25 et 30 ans, quand on commence à avoir un besoin, on va dire, de culture, de patrimoine, peut-être de faire valoir aussi, hein, parce que le vin en France, c'est un peu chic, c'est un peu snob de dire qu'on s'y connaît en vin. Et à partir d'un certain niveau social, bah ça fait bien, quand on invite des amis, d'avoir un bon vin à table. Donc c'est plus une culture et un patrimoine. En revanche, et moi c'est ce qui m'inquiète toujours, c'est effectivement de voir des très mauvais vins, comme vous le disiez, madame, ou des très mauvais alcools qui vont être consommés. Pourquoi? Parce que des jeunes qui ont 20 ans, ils n'ont pas beaucoup de budget, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller acheter des mauvaises choses. Et à un moment donné, le consommer de manière excessive. On voit très bien les dérapages qu'il y a les 31 janvier dans un certain nombre de villes ou de quartiers de France, dans lesquels, effectivement, les gens tombent dans un alcoolisme qui est très dangereux. Et ça, je ne l'irai pas. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que, à l'image d'ailleurs, aujourd'hui, vous voulez une aspirine, vous pouvez plus en avoir. Hein. Il faut avoir, même pour un Doliprane, une ordonnance. Il faudrait peut-être qu'on dise l'alcool, le vin, c'est un produit dangereux, il faut donc le vendre dans des magasins spécialisés. Pourquoi pas? On peut aller jusque-là, sous forme d'humour.
Ça existe dans certains pays?
Oui, tout à fait. Ça existe au Québec, ça existe aux États-Unis, où la distribution de l'alcool est très, très réglementée. C'est dans des boutiques d'État, effectivement. Donc, en Suède aussi, je crois, de mémoire. Vous parliez, je crois, de ce pays tout à l'heure, madame.
La Finlande,
aussi.
Un des pionniers sur le Dry January.
Claude Rambaud, je voudrais vous poser une question presque médicale. Quels sont les bienfaits à l'arrêt de la consommation d'alcool pendant une semaine, un mois? Il y a des bienfaits immédiats
ou... Il y a des bienfaits immédiats qui sont connus. D'abord, la perte de poids. Mm-hmm. Hein, ça, c'est... Et la perte de poids, le sommeil. Le sommeil, vous verrez que effectivement, le sommeil revient très vite.
Ce qu'il faut dire, c'est que ça aide peut-être à s'endormir, mais ça n'aide pas à bien dormir.
Oui, c'est ça. Et puis la peau aussi. On le vérifie autour de nous. On voit très bien quelqu'un qui réduit sa consommation d'alcool, reprend tout de suite une mine bien meilleure. Voilà. Après, ça c'est pour l'immédiat, la question que vous m'avez posée, parce qu'ensuite, pour ceux qui ont des consommations long terme et qui dépassent effectivement ce qu'ils peuvent supporter, parce que on peut pas dire quelle est la norme, parce que selon les individus,
oui,
la génétique,
c'est une question intéressante que j'allais vous
c'est
poser.
Autre chose. Hein,
deux verres par jour, pas tous les jours, ou alors trois, ou alors c'est assez variable.
Il y a des grands débats là-dessus entre les hommes, les femmes, etc. Mais chacun a un caractère, une histoire d'abord, qui fait qu'on va en prendre ou pas en prendre. Quelqu'un qui a une hépatite C, c'est zéro alcool, quoi. Ça se discute même pas. Les femmes enceintes, c'est zéro alcool. Et ça n'est pas par précaution, comme certains messages le disent. Parce que par précaution voudrait dire qu'il y a un doute. Or, il n'y a pas de doute sur le fait que le vin passe la barrière fœtale, mais immédiatement, et fait des dégâts. Donc, c'est pas si évident.
Jean Guizard, quel message vous avez par rapport à vos clients quand vous leur vendez de l'alcool? Pour vous, c'est quoi une consommation raisonnée? Ça dépend des gens, ça dépend des individus?
Oui, ça c'est tout à fait vrai. Je pense que ça dépend du contexte, ça dépend des gens, ça dépend de l'âge, ça dépend de votre état physique, ça dépend de votre capacité à l'éliminer aussi. Il y a des gens qui éliminent vite, il y a des gens qui éliminent pas. Je pense que quand on est fatigué, on subit beaucoup plus rapidement l'effet de l'alcool, c'est évident. Et quand on était enceinte, évidemment, probablement. Quand on est enfant, c'est pareil. Mais voilà, je crois qu'il y a, un certain nombre de stades de la vie. On dit que curieusement, je sais pas pourquoi, il y aurait une raison génétique. Les hommes supportent
plus rapidement. Excusez-moi, je vous ai coupé, mais les populations, on le sait, les populations dans certains peuples d'origine asiatique, pas toute l'Asie, hein, mais certains peuples d'origine asiatique ont une particularité génétique qui fait qu'ils ne supportent pas le vin, et même s'ils vivent en France, je veux dire, ça ne change rien du tout, et c'est connu.
Donc oui, on vous a coupé, Jean Guizard.
Oui, oui, donc voilà, après, vous savez, je crois que le mal profond, c'est pas l'alcool, c'est... Il faut s'attaquer aux racines de l'alcoolisme. Pourquoi on tombe dans l'alcoolisme? C'est ça la vraie bonne question. On y tombe, alors il y a deux grands cas de figure. Il y a les cas de figure, on y tombe par hasard parce qu'on est jeune et qu'on n'a pas été habitué et qu'on se fait, excusez-moi le terme, une bonne cuite dans une soirée avec des copains. Et puis on s'y habitue et on reste dedans parce qu'on a peut-être un malaise de post-adolescence ou on a un malaise sociétal où on veut peut-être créer une désinhibition ou peut-être lutter contre peut-être des peurs ou des craintes d'autres vies, hein, dans la vie collective. Et puis le deuxième grand problème quand même, c'est les accidents de la vie. Hein, il m'est arrivé il y a quelques années d'avoir à soutenir un client qui était tombé dans l'alcoolisme. J'aurais pu me réjouir et me dire c'est génial, tous les jours il m'achète 3 bouteilles, je suis ravi et je suis content de faire du bénéfice avec ce qu'il m'achète. On peut aller beaucoup plus loin et dire non, c'est catastrophique et on peut pas laisser cet homme dériver. Et pourquoi il dérive? Et un jour je l'ai interpellé, je l'ai pris dans un coin et je lui ai dit si tu veux on peut laisser parler. Et j'ai essayé de comprendre ce qui lui arrivait. Il m'avait rien raconté, on savait rien. Et j'ai découvert qu'il venait de divorcer. J'ai découvert que son commerce était en train de s'écrouler et qu'il était au dépôt de bilan quasiment, qu'il avait des huissiers sur le dos, etc., etc. Donc, je veux dire, c'est pas. Il aurait pu tomber sur n'importe quoi d'autre. Hein. Il aurait pu prendre de la drogue. Il aurait pu faire d'autres choses. Bon, malheureusement, c'est l'alcool qui lui est tombé sous la main. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'à un moment donné, c'est comme dire on va supprimer tous les platanes au bord des routes parce que ça fait des accidents. Non. Pourquoi il y a des accidents? C'est parce qu'à un moment donné, on s'endort, ou parce qu'à un moment donné, on a bu, ou parce qu'à un moment donné, on a regardé à droite au lieu d'aller tout droit.
Oui.
Donc c'est vrai que je pense qu'il faut plutôt s'attaquer. On parlait d'éducation tout à l'heure, mais il faut aussi aider les gens à s'en sortir. Et ça, je pense, c'est vital.
Alors, justement.
Et ça, c'est quotidien.
Justement, Claude Rambaud, l'État et notamment le ministère de la Santé avaient envisagé l'idée de s'associer au mouvement. Cela ne s'est pas fait dans des conditions un peu qui vous paraissent, à vous, association un peu étrange. Comment est-ce que vous l'expliquez?
Moi, je ne l'explique pas. D'abord, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans, puisqu'on n'a pas eu vraiment de réponse là-dessus. Mm-hmm. On nous avait dit que l'agence de santé qui s'appelle Santé publique France avait préparé une campagne, que cette campagne a été suspendue. Je ne connais pas le fond de vérité. Est-ce que ce sont des rumeurs? Est-ce qu'il y a vraiment eu des interventions du plus haut niveau de nos pouvoirs qui sont intervenus? Je pourrais pas vous le dire.
On parle d'une décision d'Emmanuel Macron après un déjeuner avec des représentants de la filière viticole.
Vous avez dit le juste mot, on parle. Moi, je comprends que la filière viticole se défendre là-dessus. Je ne comprends pas vraiment qu'elle craigne cette campagne parce qu'elle existe dans bien d'autres pays et ça se passe plutôt bien. J'entends bien que monsieur, il a le même souci de savoir gérer sa consommation. Je voudrais rajouter quelque chose à ce que vous avez dit, monsieur. Il y a aussi quand même le phénomène de la convivialité et la stigmatisation de quand on est sur un groupe à ne pas boire, et aussi le rattachement au groupe. On le voit dans certaines entreprises, dans le travail, par exemple. On sait que c'est souvent par le travail aussi qu'on va rentrer dans une consommation. Et on ne sait pas à quel moment on perd le contrôle. On ne sait pas définir quels vont être les éléments qui vont faire qu'un jour, une personne va perdre le contrôle sur sa consommation et va rentrer dans autre chose. Mmh. Donc, je voudrais ramener quand même à ce mois qui est Dry January, qui n'est pas du tout une interdiction de l'alcool c'est pas du tout une expérience de sevrage. C'est simplement donner un répit à votre corps pendant un mois, regarder comment ça se passe, essayer de mesurer quels sont les problèmes que vous pouvez avoir avec. Vous avez dit, la France a-t-elle un problème avec l'alcool? La question serait plutôt, les Français ont-ils un problème? Donc regardez personnellement si vous avez un problème et apprenez à le gérer et prenez votre liberté de contrôle. C'est plutôt ça l'idée du mois de janvier.
Jean Guizard, vous avez prononcé plusieurs fois au cours de cette émission le mot prohibition. Est-ce que c'est un danger qui vous inquiète vraiment, ou est-ce que, je vous pose la question directement, est-ce que ça peut impacter votre chiffre d'affaires pendant le mois de janvier?
Oui, c'est évident. Si demain on disait il est interdit de vendre de l'alcool au mois de janvier, c'est évident que beaucoup de gens mettraient la clé sous la porte, ça c'est sûr. Donc ça peut faire peur à beaucoup de gens, oui, bien évidemment. Quand vous parliez du monde viticole, effectivement, le monde viticole souffre beaucoup de plusieurs choses. C'est que, d'une part, ces dernières années, on a eu des phénomènes climatiques catastrophiques qui ont quand même amputé les récoltes dans beaucoup de régions françaises. Ils se trouvent aujourd'hui aussi avec des charges assez importantes. Ils se trouvent avec parfois des jeunes qui n'ont pas envie de reprendre la propriété de leurs parents, parce qu'on travaille beaucoup dans le monde viticole. C'est pas des métiers faciles. Hein.
Ouais.
Et effectivement, quand on vient leur rajouter par-dessus des impôts et d'un centre de choses, et puis peut-être derrière le risque qu'un jour, on va interdire la consommation pour telle et telle raison, eh bien ça fait peur, c'est évident. Ouais. Deuxième sujet assez étonnant...
Alors, très et ça, rapidement, c'est toujours, parce qu'on est au bout de l'émission, en fait.
Oui, oui. Et rapidement, de plus en plus...
Il y a aussi un maire qui a essayé d'interdire de ne pas boire.
Alors, écoutez, je pense que effectivement, on
c'est
a compris
ce que font certains préfets,
vos deux points de vue. Merci. Merci.
On peut te rejoindre.
Merci Jean Guizard. Merci Claude Rambaud d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Vous pouvez participer au débat sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est lundi, même heure, même endroit. Bonjour chez vous. Légende.